Consuelo, livre 3, chapitre 98. Malgré l'agitation convulsive qui s'était emparée de Consuelo, elle se surpassa encore dans le troisième acte. Elle ne s'y attendait pas, elle n'y comptait plus. Elle entrait sur le théâtre avec la résolution désespérée d'échouer avec honneur, en se voyant tout à coup privée de sa voix et de ses moyens au milieu d'une lutte courageuse. Elle n'avait pas peur. 1000 sifflets n'eussent rien été au prix du danger et de la honte auquel elle venait d'échapper par une sorte d'intervention miraculeuse. Un autre miracle suivit celui-là. Le bon génie de Consuelo semblait veiller sur elle. Elle eut plus de voix qu'elle n'en avait jamais eue. Elle chanta avec plus de maestria et joua avec plus d'énergie et de passion qu'il ne lui était encore arrivé. Tout son être était exalté à sa plus haute puissance. Il lui semblait bien à chaque instant qu'elle allait se briser comme une corde trop tendue. Mais cette excitation fébrile la transportait dans une sphère fantastique. Elle agissait comme dans un rêve et s'étonnait d'y trouver les forces de la réalité. Et puis une pensée de bonheur la ranimait à chaque crainte de défaillance. Albert, sans aucun doute, était là. Il était à Vienne, depuis la veille au moins. Il l'observait, il suivait tous ses mouvements, il veillait sur elle. Car à quel autre attribuer le secours imprévu qu'elle venait de recevoir, et la force presque surnaturelle dont il fallait qu'un homme fût doué pour terrasser François de Trinques, l'Hercule Esclavon? Et si, par une de ces bizarreries dont son caractère n'offrait que trop d'exemples, il refusait de lui parler, s'il semblait vouloir se dérober à ses regards, il n'en était pas moins évident qu'il l'aimait toujours ardemment, puisqu'il la protégeait avec tant de sollicitude et la préservait avec tant d'énergie. « Eh bien, » pensa Consuelo, « puisque Dieu permet que mes forces ne me trahissent pas, je veux qu'il me voie belle dans mon rôle, et que, du coin de la salle d'où sans doute il m'observe en cet instant, il jouisse d'un triomphe que je ne dois ni à la cabale ni au charlatanisme. » Tout en se conservant à l'esprit de son rôle, elle le chercha des yeux, mais elle ne le put découvrir. Et lorsqu'elle rentrait dans les coulisses, elle les cherchait encore, avec aussi peu de succès. Où pouvait-il être? Où se cachait-il? Avait-il tué le pandour sous le cou, en le jetant au bas de l'escalier? Était-il forcé de se dérober aux poursuites? Allait-il venir lui demander asile auprès du Porpora? Le retrouverait-elle cette fois en rentrant à l'ambassade? Ses perplexités disparaissaient dès qu'elle rentrait en scène. Elle oubliait alors, comme par un effet magique, tous les détails de sa vie réelle, pour ne plus sentir qu'une vague attente, mêlée d'enthousiasme, de frayeur, de gratitude et d'espoir. Et tout cela était dans son rôle, et se manifestait en accents admirables de tendresse et de vérité. Elle fut rappelée après la fin, et l'impératrice lui jeta, la première de sa loge, un bouquet où était attaché un présent assez estimable. La cour et la ville suivirent l'exemple de la souveraine en lui envoyant une pluie de fleurs. Au milieu de ses palmes embaumées, Consuelo vit tomber à ses pieds une branche verte, sur laquelle ses yeux s'attachèrent involontairement. Dès que le rideau fut hissé pour la dernière fois, elle la ramassa. C'était une branche de cyprès. Alors, toutes les couronnes du triomphe disparurent de sa pensée, pour ne lui laisser à contempler et à commenter que cet emblème funèbre, un signe de douleur et d'épouvante, l'expression peut-être d'un dernier adieu. Un froid mortel succéda à la fièvre de l'émotion. Une terreur insurmontable fit passer un nuage devant ses yeux. Ses jambes se dérobèrent, et on l'emporta défaillante dans la voiture de l'ambassadeur de Venise, où le Porpora chercha en vain à lui arracher un mot. Ses lèvres étaient glacées, et sa main pétrifiée tenait sous son manteau cette branche de cyprès, qui semblait avoir été jetée sur elle par le vent de la mort. En descendant l'escalier du théâtre, elle n'avait pas vu des traces de sang, et dans la confusion de la sortie, peu de personnes les avaient remarquées. Mais tandis qu'elle regagnait l'ambassade, absorbée dans de sombres méditations, une scène assez triste se passait à huis clos dans le foyer des acteurs. Peu de temps avant la fin du spectacle, les employés du théâtre, en rouvrant toutes les portes, avaient trouvé le baron de Trinques évanoui au bas de l'escalier et baigné dans son sang. On l'avait porté dans une des salles réservées aux artistes. Et, pour ne pas faire d'éclat et de confusion, on avait averti, sous main, le directeur, le médecin du théâtre et les officiers de police, afin qu'ils vinssent constater le fait. Le public et la troupe évacuèrent donc la salle et le théâtre sans savoir l'événement, tandis que les gens de l'art, les fonctionnaires impériaux et quelques témoins compatissants s'efforçaient de secourir et d'interroger le pandour. La corille, qui attendait la voiture de son amant et qui avait envoyé plusieurs fois sa soubrette s'informer de lui, fut prise d'humeur et d'impatience et se hasarda à descendre elle-même au risque de s'en retourner à pied. Elle rencontra M. Holzbauer, qui connaissait ses relations avec Trunk et qui la conduisit au foyer, où elle trouva son amant avec la tête fendue et le corps tellement endolori de contusion qu'il ne pouvait faire un mouvement. Elle remplit l'air de ses gémissements et de ses plaintes. Holzbauer fit sortir les témoins inutiles et ferma les portes. La cantatrice, interrogée, ne put rien dire et rien présumer pour éclaircir l'affaire. Enfin, Trinck, ayant un peu repris ses esprits, déclara qu'étant venu dans l'intérieur du théâtre sans permission, pour voir de près les danseuses, il avait voulu se hâter de sortir avant la fin. Mais que, ne connaissant pas les détours du labyrinthe, le pied lui avait manqué sur la première marche de ce maudit escalier. Il était tombé brusquement et avait roulé jusqu'en bas. On se contenta de cette explication, et on le reporta chez lui, où la corilla l'alla soigner avec un zèle qui lui fit perdre la faveur du prince Kaunitz, et par suite la bienveillance de sa majesté. Mais elle en fit hardiment le sacrifice, et Trinck, dont le corps de fer avait résisté à des épreuves plus rudes, en fut quitte pour 8 jours de courbatures et une cicatrice de plus à la tête. Il ne se vanta à personne de sa mésaventure, et se promit seulement de la faire payer cher à Consuelo. Il l'eût fait cruellement, sans doute, si un mandat d'arrêt ne l'eût arraché brusquement des bras de Corilla pour le jeter dans la prison militaire, à peine rétabli de sa chute et grelottant encore la fièvre. Ce qu'une sourde rumeur publique avait annoncé aux chanoines commençait à se réaliser. Les richesses du pandour avaient allumé chez des hommes influents et d'habiles créatures une soif ardente, inextinguible. Il en fut la victime mémorable. Accusé de tous les crimes qu'il avait commis et de tous ceux que lui prêtèrent les gens intéressés à sa perte, il commença à endurer les lenteurs, les vexations, les prévarications impudentes, les injustices raffinées d'un long et scandaleux procès. Avare, malgré son ostentation, et fier, malgré ses vices, il ne voulut pas payer le zèle de ses protecteurs ou acheter la conscience de ses juges. Nous le laisserons jusqu'à nouvel ordre dans la prison, où, s'étant porté à quelque violence, il eut la douleur de se voir enchaîné par un pied. Honte et infamie. Ce fut précisément le pied qui avait été brisé d'un éclat de bombe dans une de ses plus belles actions militaires. Il avait subi la scarification de l'os gangrené, et à peine rétabli, il était remonté à cheval pour reprendre son service avec une fermeté héroïque. On scella un anneau de fer et une lourde chaîne sur cette affreuse cicatrice. La blessure se rouvrit et il supporta de nouvelles tortures, non plus pour servir Marie-Thérèse, mais pour l'avoir trop bien servie. La grande reine, qui n'avait pas été fâchée de lui voir pressurer et déchirer cette malheureuse et dangereuse bohème, rempart peu assuré contre l'ennemi, à cause de son antique haine nationale, le roi Marie-Thérèse, qui, n'ayant plus besoin des crimes de Trunk et des excès des pandours pour s'affirmer sur le trône, commençait à les trouver monstrueux et irrémissibles, fut censé ignorer ces barbares traitements. de même que le grand Frédéric fut censé ignorer les féroces recherches de cruauté, les tortures de l'inanition et les 68 livres de fer dont fut martyrisé, un peu plus tard, l'autre baron de Trinques, son beau page, son brillant officier d'ordonnance, le sauveur et l'ami de notre Consuelo. Tous les flatteurs qui nous ont transmis légèrement le récit de ces abominables histoires en ont attribué l'odieux à des officiers subalternes, à des commis obscurs, pour en laver la mémoire des souverains. Mais ces souverains, si mal instruits des abus de leur geôle, savaient si bien au contraire ce qui s'y passait, que Frédéric le Grand donna en personne le dessin des fers que Trinques le Prussien porta 9 ans dans son sépulcre de Magdebourg. Et si Marie-Thérèse n'ordonna pas précisément qu'on enchaîna Trinques l'Autrichien, son valeureux pandour, par le pied mutilé, elle fut toujours sourde à ses plaintes, inaccessible à ses révélations. D'ailleurs, dans la honteuse orgie que ces gens firent des richesses du vaincu, elle sut fort bien prélever la part du lion et refuser justice à ses héritiers. Revenons à Consuelo, car il est de notre devoir de romancier de passer rapidement sur les détails qui tiennent à l'histoire. Cependant, nous ne savons pas le moyen d'isoler absolument les aventures de notre héroïne des faits qui se passèrent dans son temps et sous ses yeux. En apprenant l'infortune du pandour, elle ne songea plus aux outrages dont il l'avait menacée, et, profondément révoltée de l'iniquité de son sort, elle aida Corilla à lui faire passer de l'argent, dans un moment où on lui refusait les moyens d'adoucir la rigueur de sa captivité. La Corilla, plus prompte encore à dépenser l'argent qu'à l'acquérir, se trouvait justement à sec le jour où un émissaire de son amant vint en secret lui réclamer la somme nécessaire. Consuelo fut la seule personne à laquelle cette fille, dominée par l'instinct de la confiance et de l'estime, osa recourir. Consuelo vendit aussitôt le cadeau que l'impératrice lui avait jeté sur la scène à la fin de Zenobi, et en remit le prix à sa camarade, en l'approuvant de ne point abandonner le malheureux Trinque dans sa détresse. Le zèle et le courage que mit la Corilla à servir son amant tant qu'il lui fut possible, jusqu'à s'entendre amiablement à cet égard avec une baronne qui était sa maîtresse en titre, et dont elle était mortellement jalouse, rendirent une sorte d'estime à Consuelo pour cette créature corrompue, mais non perverse, qui avait encore de bons mouvements de cœur et des élans de générosité désintéressés. Prosternons-nous devant l'œuvre de Dieu, disait-elle à Joseph, qui lui reprochait quelquefois d'avoir trop d'abandon avec cette Corilla. L'âme humaine conserve toujours dans ses égarements quelque chose de bon et de grand, où l'on sent avec respect et où l'on retrouve avec joie cette empreinte sacrée qui est comme le sceau de la main divine. Là où il y a beaucoup à plaindre, il y a beaucoup à pardonner. Et là où l'on trouve à pardonner, sois certain, bon Joseph, qu'il y a quelque chose à aimer. Cette pauvre Corilla, qui vit à la manière des bêtes, a encore parfois les traits d'un ange. Va, je sens qu'il faut que je m'habitue, si je reste artiste, à contempler sans effroi et sans colère ces turpitudes douloureuses où la vie des femmes perdues s'écoule entre le désir du bien et l'appétit du mal, entre l'ivresse et le remords. Et même, je te l'avoue, il me semble que le rôle de sœur de charité convient mieux à la santé de ma vertu qu'une vie plus épurée et plus douce, des relations plus glorieuses et plus agréables, le calme des êtres forts, heureux et respectés. Je sens que mon cœur est fait comme le paradis du tendre Jésus, où il y aura plus de joie et d'accueil pour un pécheur converti que pour 100 justes triomphants. Je le sens fait pour compatir, plaindre, secourir et consoler. Il me semble que le nom que ma mère m'a donné au baptême m'impose ce devoir et cette destinée. Je n'ai pas d'autre nom, Beppo. La société ne m'a pas imposé l'orgueil d'un nom de famille à soutenir. Et si, au dire du monde, je m'avilis en cherchant quelques parcelles d'or pur au milieu de la fange des mauvaises mœurs d'autrui, je n'ai pas de compte à rendre au monde. J'y suis la Consuelo, rien de plus. Et c'est assez pour la fille de la Rosmunda, car la Rosmunda était une pauvre femme dont on parlait plus mal encore que de la Corilla, et telle qu'elle était, je devais et je pouvais l'aimer. Elle n'était pas respectée comme Marie-Thérèse, mais elle n'eût pas fait attacher Trinque par le pied pour le faire mourir dans les tortures et s'emparer de son argent. La Corilla ne l'eût pas fait non plus. Et pourtant, au lieu de se battre pour elle, ce Trinque, qu'elle aide dans son malheur, l'a bien souvent battue. Joseph, Joseph, Dieu est un plus grand empereur que tous les nôtres. Et peut-être bien, puisque Madeleine a chez lui un tabouret de duchesse à côté de la Vierge sans tache, la Corilla aura-t-elle le pas sur Marie-Thérèse pour entrer à cette cour-là? Quant à moi, dans ces jours que j'ai à passer sur la terre, je t'avoue que s'il me fallait quitter les âmes coupables et malheureuses pour m'asseoir au banquet des justes dans la prospérité morale, je croirais n'être plus dans le chemin de mon salut. Oh, le noble Albert l'entendait bien comme moi, et ce ne serait pas lui qui me blâmerait d'être bonne pour Corilla. Lorsque Consuelo disait ces choses à son ami Beppo, 15 jours s'étaient écoulés depuis la soirée de Zenobi et l'aventure du baron de Trinque. Les 6 représentations pour lesquelles on l'avait engagé avaient eu lieu. Madame Thésy avait reparu au théâtre. L'impératrice travaillait le porpora en dessous main par l'ambassadeur Corner et faisait toujours du mariage du Consuelo avec Hind la condition de l'engagement définitif de cette dernière au théâtre impérial, après l'expiration de celui de la Thésy. Joseph ignorait tout. Consuelo ne pressentait rien. Elle ne songeait qu'à Albert qui n'avait pas reparu et dont elle ne recevait point de nouvelles. Elle roulait dans son esprit 1000 conjectures et 1000 décisions contraires. Ses perplexités et le choc de ses émotions l'avaient rendue un peu malade. Elle gardait la chambre depuis qu'elle en avait fini avec le théâtre et contemplait sans cesse cette branche de cyprès qui lui semblait avoir été enlevée à quelque tombe dans la grotte du Schreckenstein. Beppo, seul ami à qui elle put ouvrir son cœur, avait d'abord voulu la dissuader de l'idée qu'Albert était venu à Vienne. Mais lorsqu'elle lui eut montré la branche de cyprès, il rêva profondément à tout ce mystère et finit par croire à la part du jeune comte dans l'aventure du Trinque. « Écoute, lui dit-il, je crois avoir compris ce qui se passe. Albert est venu à Vienne, effectivement. Il t'a vu, il t'a écouté, il a observé toutes tes démarches, il a suivi tous tes pas. Le jour où nous causions sur la Seine, le long du décor de l'Arax, il a pu être de l'autre côté de cette toile et entendre les regrets que j'exprimais de te voir enlevé au théâtre au début de ta gloire. Toi-même, tu as laissé échapper je ne sais quelle exclamation qui ont pu lui faire penser que tu préférais l'éclat de ta carrière à la tristesse solennelle de son amour. Le lendemain, il t'a vu entrer dans cette chambre de Corilla, ou peut-être, puisqu'il était là toujours en observation, il avait vu entrer le Pandour quelques instants auparavant. Le temps qu'il a mis à te secourir prouverait presque qu'il te croyait là de ton plein gré, et ce sera donc après avoir succombé à la tentation d'écouter à la porte qu'il aura compris l'imminence de son intervention. « Fort bien, dit Consuelo. Mais pourquoi agir avec mystère? Pourquoi se cacher la figure d'un crêpe ?»«
Tu sais comme la police autrichienne est ombrageuse. Peut-être a-t-il été l'objet de méchants rapports à la cour. Peut-être avait-il des raisons de politique pour se cacher. Peut-être son visage n'était-il pas inconnu à Trinque. Qui sait si durant les dernières guerres, il ne l'a pas vu en Bohême, s'il ne l'a pas affronté, menacé, s'il ne lui a pas fait lâcher prise lorsqu'il avait la main sur quelque innocent. Le comte Albert a pu faire obscurément de grands actes de courage et d'humanité dans son pays, tandis qu'on le croyait endormi dans sa grotte du Schreckenstein. Et s'il les a faits, il est certain qu'il n'aura pas songé à te les raconter, puisqu'il est, à ton dire, le plus humble et le plus modeste des hommes. Il a donc agi sagement, en ne châtiant pas le Pandour à visage découvert. Car si l'impératrice punit le Pandour aujourd'hui pour avoir dévasté sa chère bohème,
sois sûr qu'elle n'en est pas plus disposée pour cela à laisser impunie dans le passé une résistance ouverte contre le pandour de la part d'un bohémien.
Tout ce que tu dis est fort juste, Joseph, et me donne à penser. Mille inquiétudes s'élèvent en moi maintenant. Albert peut avoir été reconnu, arrêté, et cela peut avoir été aussi ignoré du public que la chute de Trinque dans l'escalier. Hélas, peut-être est-il en cet instant dans les prisons de l'arsenal, à côté du cachot de Trinque, et c'est pour moi qu'il subit ce malheur.
Rassure-toi, je ne crois pas cela. Le comte Albert aura quitté Vienne sur le champ, et tu recevras bientôt de lui une lettre datée de Risenburg.
En as-tu le pressentiment, Joseph ?
Oui, je l'ai. Mais si tu veux que je te dise toute ma pensée, je crois que cette lettre sera toute différente de celle que tu attends. Je suis convaincue que, loin de persister à obtenir d'une généreuse amitié le sacrifice que tu voulais lui faire de ta carrière d'artiste, il a renoncé déjà à ce mariage et va bientôt te rendre ta liberté. S'il est intelligent, noble et juste, comme tu le dis, il doit se faire un scrupule de t'arracher au théâtre que tu aimes passionnément. Ne le nie pas. Je l'ai bien vu, et il a dû le voir et le comprendre aussi bien que moi en écoutant Zenobi. Il rejettera donc un sacrifice au-dessus de tes forces, et je l'estimerai peu s'il ne le faisait pas.
Mais relis donc son dernier billet. Tiens, le voilà, Joseph. Ne me disait-il pas qu'il m'aimerait au théâtre aussi bien que dans le monde ou dans un couvent? Ne pouvait-il admettre l'idée de me laisser libre en m'épousant?
Dire et faire, penser et être, sont deux. Dans le rêve de la passion, tout semble possible. Mais quand la réalité frappe tout à coup nos yeux, nous revenons avec effroi à nos anciennes idées. Jamais je ne croirais qu'un homme de qualité voit sans répugnance son épouse exposée aux caprices et aux outrages d'un parterre. En mettant le pied, pour la première fois de sa vie certainement, dans les coulisses, le comte a eu, dans la conduite de Trinque envers toi, un triste échantillon des malheurs et des dangers de ta vie de théâtre. Il se sera éloigné, désespéré, il est vrai, mais guéri de sa passion et revenu de ses chimères. Pardonne-moi si je te parle ainsi, ma sœur Consuelo. Je le dois, car c'est un bien pour toi que l'abandon du comte Albert. Tu le sentiras plus tard, quoique tes yeux se remplissent de larmes en ce moment. Sois juste envers ton fiancé, au lieu d'être humilié de son changement. Quand il te disait que le théâtre ne lui répugnait point, il s'en faisait un idéal qui s'est écroulé au premier examen. Il a reconnu alors qu'il devait faire ton malheur en t'en arrachant, ou consommer le sien en t'y suivant.
Tu as raison, Joseph, je sens que tu es dans le vrai, mais laisse-moi pleurer. Ce n'est point l'humiliation d'être délaissé et dédaigné qui me serre le cœur. C'est le regret à un idéal que je m'étais fait de l'amour et de sa puissance, comme Albert s'était fait un idéal de ma vie de théâtre. Il a reconnu maintenant que je ne pouvais me conserver digne de lui, du moins dans l'opinion des hommes, en suivant ce chemin-là. Et moi, je suis forcée de reconnaître que l'amour n'est pas assez fort pour vaincre tous les obstacles et abjurer tous les préjugés.
Sois équitable, Consuelo, et ne demande pas plus que tu n'as pu accorder. Tu n'aimais pas assez pour renoncer à ton art sans hésitation et sans déchirement. Ne trouve pas mauvais que le comte Albert n'ait pas pu rompre avec le monde sans épouvante et sans consternation.
Mais, quelle que fût ma secrète douleur, je puis bien l'avouer maintenant, j'étais résolue à lui sacrifier tout, et lui, au contraire.
Songe que la passion était en lui, non en toi. Il demandait avec ardeur, tu consentais avec effort. Il voyait bien que tu allais t'immoler. Il a senti, non seulement qu'il avait le droit de te débarrasser d'un amour que tu n'avais pas provoqué, et dont ton âme ne reconnaissait pas la nécessité, mais encore qu'il était obligé par sa conscience à le faire.
Cette raisonnable conclusion convainquit Consuelo de la sagesse et de la générosité d'Albert. Elle craignait, en s'abandonnant à la douleur, de céder aux suggestions de l'orgueil blessé. Et, en acceptant l'hypothèse de Joseph, elle se soumit et se calma.
Mais, par une bizarrerie bien connue du cœur humain, elle ne se vit pas plutôt libre de suivre son goût pour le théâtre, sans distraction et sans remords, qu'elle se sentit effrayée de son isolement au milieu de toute cette corruption, et consternée de l'avenir de fatigues et de luttes qui s'ouvraient devant elle. La scène est une arène brûlante. Quand on y est, on s'y exalte, et toutes les émotions de la vie paraissent froides et pâles en comparaison. Mais quand on s'en éloigne brisé de lassitude, on s'effraie d'avoir subi cette épreuve du feu, et le désir qui vous y ramène est traversé par l'épouvante. Je m'imagine que l'acrobate est le type de cette vie pénible, ardente et périlleuse. Il doit éprouver un plaisir nerveux et terrible sur ses cordes et ses échelles, où il accomplit des prodiges au-dessus des forces humaines. Mais lorsqu'il en est descendu vainqueur, il doit se sentir défaillir à l'idée d'y remonter, et d'étreindre encore une fois la mort et le triomphe, spectre à deux faces qui plane incessamment sur sa tête. Alors le château des géants, et jusqu'à la pierre d'épouvante, ce cauchemar de toutes ces nuits, apparurent à Consuelo à travers le voile d'un exil consommé, comme un paradis perdu, comme le séjour d'une paix et d'une candeur à jamais augustes et respectables dans son souvenir. Elle attacha la branche de cyprès, dernière image, dernier envoi de la grotte hussitique, au pied du crucifix de sa mère, et, confondant ensemble ces deux emblèmes du catholicisme et de l'hérésie, elle éleva son cœur vers la notion de la religion unique, éternelle, absolue. Elle y puisa le sentiment de la résignation à ses maux personnels et de la foi au dessein providentiel de Dieu sur Albert et sur tous les hommes, bons et mauvais, qu'il lui fallait désormais traverser seul et sans guide. Chapitre 99. Un matin, le Porpora l'appela dans sa chambre plutôt que de coutume. Il avait l'air rayonnant et il tenait une grosse et grande lettre d'une main, ses lunettes de l'autre. Consuelo tressaillit et trembla de tout son corps, s'imaginant que c'était enfin la réponse de Risenburg. Mais elle fut bientôt détrompée. C'était une lettre d'Hubert, le Porporino. Ce chanteur célèbre annonçait à son maître que toutes les conditions proposées par lui pour l'engagement de Consuelo étaient acceptées, et il lui envoyait le contrat signé du baron de Pellnitz, directeur du Théâtre royal de Berlin, et n'attendant plus que la signature de Consuelo et la sienne. À cet acte était jointe une lettre fort affectueuse et fort honorable du dit baron, qui engageait le Porpora à venir briguer la maîtrise de chapelle du roi de Prusse, tout en faisant ses preuves par la production et l'exécution d'autant d'opéras et de fugues nouvelles qu'il lui plairait d'en apporter. Le Porporino se réjouissait d'avoir à chanter bientôt, selon son cœur, avec une sœur en Porpora, et invitait vivement le maître à quitter Vienne pour, sans souci, le délicieux séjour de Frédéric le Grand. Cette lettre mettait le Porpora en grande joie, et cependant elle le remplissait d'incertitude. Il lui semblait que la fortune commençait à dérider pour lui sa face si longtemps rechignée, et que, de deux côtés, la faveur des monarques, alors si nécessaire au développement des artistes, lui offrait une heureuse perspective. Frédéric l'appelait à Berlin. À Vienne, Marie-Thérèse lui faisait faire de belles promesses. Des deux parts, il fallait que Consuelo fût l'instrument de sa victoire. À Berlin, en faisant beaucoup valoir ses productions, à Vienne, en épousant Joseph Hind. Le moment était donc venu de remettre son sort entre les mains de sa fille adoptive. Il lui proposa le mariage ou le départ, à son choix. Et dans ces nouvelles circonstances, il mit beaucoup moins d'ardeur à lui offrir le cœur et la main de Beppo qu'il en eût mis la veille encore. Il était un peu las de Vienne, et la pensée de se voir apprécié et fêté chez l'ennemi lui souriait comme une petite vengeance dont il s'exagérait l'effet probable sur la cour d'Autriche. Enfin, à tout prendre, Consuelo, ne lui parlant plus d'Albert depuis quelque temps, et lui paraissant y avoir renoncé, il aimait mieux qu'elle ne se mariât pas du tout. Consuelo eut bientôt mis fin à ses incertitudes en lui déclarant qu'elle n'épouserait jamais Joseph Hind par beaucoup de raisons, et d'abord parce qu'il ne l'avait jamais recherché en mariage, étant engagé avec la fille de son bienfaiteur, Anna Keller. « En ce cas, dit le Porpora, il n'y a pas à balancer. Voici ton contrat d'engagement avec Berlin. Signe, et disposons-nous à partir. Car il n'y a pas d'espoir pour nous ici si tu ne te soumets à la matrimoniomanie de l'impératrice. Sa protection est à ce prix, et un refus décisif va nous rendre à ses yeux plus noirs que les diables. » « Mon cher maître, répondit Consuelo avec plus de fermeté qu'elle n'en avait encore montré au Porpora. « Je suis prête à vous obéir dès que ma conscience sera en repos sur un point capital. Certains engagements d'affection et d'estime sérieuse me liaient au seigneur de Rudolfstadt. Je ne vous cacherai pas que malgré votre incrédulité, vos reproches et vos railleries, j'ai persévéré, depuis 3 mois que nous sommes ici, à me conserver libre de tout engagement contraire à ce mariage. Mais, après une lettre décisive que j'ai écrite il y a 6 semaines et qui a passé par vos mains, il s'est passé des choses qui me font croire que la famille de Rudolfstadt a renoncé à moi. Chaque jour qui s'écoule me confirme dans la pensée que ma parole m'est rendue et que je suis libre de vous consacrer entièrement mes soins et mon travail. Vous voyez que j'accepte cette destinée sans regret et sans hésitation. Cependant, d'après cette lettre que j'ai écrite, je ne pourrais pas être tranquille avec moi-même si je n'en recevais pas la réponse. Je l'attends tous les jours. Elle ne peut plus tarder. Permettez-moi de ne signer l'engagement avec Berlin qu'après la réception de... ma pauvre enfant, dit le Porpora, qui, dès le premier mot de son élève, avait dressé ses batteries préparées à l'avance. Tu attendrais longtemps. La réponse que tu demandes m'a été adressée depuis 1 mois. Et vous ne me l'avez pas montrée ? S'écria Consuelo. Et vous m'avez laissé dans une telle incertitude ? Maître, tu es bien bizarre. Quelle confiance puis-je avoir en toi si tu me trompes ainsi ? En quoi t'ai-je trompé ? La lettre m'était adressée, et il m'était enjoint de ne te la montrer que lorsque je te verrai guéri de ton fol amour et disposé à écouter la raison et les bienséances. « Sont-ce là les termes dont on s'est servi ?» dit Consuelo en rougissant. « Il est impossible que le comte Christian ou le comte Albert ait qualifié ainsi une amitié aussi calme, aussi discrète, aussi fière que la mienne. »« Les termes n'y font rien, » dit le Porpora. « Les gens du monde parlent toujours un beau langage, c'est à nous de le comprendre. Tant il y a que le vieux comte ne se souciait nullement d'avoir une bru dans les coulisses. » Et que lorsqu'il a su que tu avais paru ici sur les planches, il a fait renoncer son fils à l'avilissement d'un tel mariage. Le bon Albert s'est fait une raison, et on te rend ta parole. Je vois avec plaisir que tu n'en es pas fâché. Donc, tout est pour le mieux, et en route pour la Prusse. « Maître, montrez-moi cette lettre, » dit Consuelo, « et je signerai le contrat aussitôt après. »« Cette lettre, pourquoi veux-tu la voir? Elle te fera de la peine. » Il est de certaines folies du cerveau qu'il faut savoir pardonner aux autres et à soi-même. Oublie tout cela. On n'oublie pas un seul acte de la volonté, reprit Consuelo. La réflexion nous aide et les causes nous éclairent. Si je suis repoussé des Rudolfstadt avec dédain, je serai bientôt consolé. Si je suis rendu à la liberté avec estime et affection, je serai consolé autrement avec moins d'effort. Montrez-moi la lettre. Que craignez-vous, puisque d'une manière ou de l'autre je vous obéirai ? Eh bien, je vais te la montrer, dit le malicieux professeur en ouvrant son secrétaire et en feignant de chercher la lettre. Il ouvrit tous ses tiroirs, remua toutes ses paperasses, et cette lettre, qui n'avait jamais existé, put bien ne pas s'y trouver. Il feignit de s'impatienter. Consuelo s'impatienta tout de bon. Elle mit elle-même la main à la recherche. Il la laissa faire.
Elle renversa tous les tiroirs, elle bouleversa tous les papiers, la lettre fut introuvable. Le Porpora essaya de se la rappeler et improvisa une version polie et décisive. Consuelo ne pouvait pas soupçonner son maître d'une dissimulation si soutenue. Il faut croire, pour l'honneur du vieux professeur, qu'il ne s'en tira pas merveilleusement. Mais il en fallait peu pour persuader un esprit aussi candide que celui de Consuelo. Elle finit par croire que la lettre avait servi à allumer la pipe du Porpora dans un moment de distraction. Et, après être rentrée dans sa chambre pour faire sa prière, et jurer sur le cyprès une éternelle amitié au comte Albert, quand même, elle revint tranquillement signer un engagement de 2 mois avec le théâtre de Berlin, exécutable à la fin de celui où l'on venait d'entrer. C'était le temps plus que nécessaire pour les préparatifs du départ et pour le voyage. Quand Porpora vit l'encre fraîche sur le papier, il embrassa son élève et la salua solennellement du titre d'artiste. « Ceci est ton jour de confirmation, lui dit-il, et s'il était en mon pouvoir de te faire prononcer des vœux, je te dicterais celui de renoncer pour toujours à l'amour et au mariage, car te voilà prêtresse du dieu de l'harmonie. Les muses sont vierges, et celle qui se consacre à Apollon devrait faire le serment des Vestales. » « Je ne dois pas faire le serment de ne pas me marier, répondit Consuelo, quoiqu'il me semble en ce moment-ci que rien ne me serait plus facile à promettre et à tenir. Mais je puis changer d'avis, et j'aurais à me repentir alors d'un engagement que je ne saurais pas rompre. « Tu es donc esclave de ta parole, toi ? Oui, il me semble que tu diffères en cela du reste de l'espèce humaine, et que si tu avais fait dans ta vie une promesse solennelle, tu l'aurais tenue. « Maître, je crois avoir déjà fait mes preuves, car depuis que j'existe, j'ai toujours été sous l'empire de quelques vœux. Ma mère m'avait donné le précepte et l'exemple de cette sorte de religion qu'elle poussait jusqu'au fanatisme. Quand nous voyagions ensemble, elle avait coutume de me dire, aux approches des grandes villes, « Consuelita, si je fais ici de bonnes affaires, je te prends à témoin que je fais vœu d'aller pieds nus prier pendant 2 heures à la chapelle le plus en réputation de sainteté dans le pays. » Et quand elle avait fait ce qu'elle appelait de bonnes affaires, la pauvre âme, c'est-à-dire quand elle avait gagné quelques écus avec ses chansons, nous ne manquions jamais d'accomplir notre pèlerinage, quelque temps qu'il fît et à quelque distance que fût la chapelle en vogue. Ce n'était pas de la dévotion bien éclairée ni bien sublime, mais enfin, je regardais ses vœux comme sacrés. Et quand ma mère, à son lit de mort, me fit jurer de n'appartenir jamais à Anzoletto qu'en légitime mariage, elle savait bien qu'elle pouvait mourir tranquille sur la foi de mon serment. Plus tard, j'avais fait aussi au comte Albert la promesse de ne point songer à un autre qu'à lui, et d'employer toutes les forces de mon cœur à l'aimer comme il le voulait. Je n'ai pas manqué à ma parole. Et s'il ne m'en dégageait lui-même aujourd'hui, j'aurais bien pu lui rester fidèle toute ma vie. Laisse-la, ton comte Albert, auquel tu ne dois plus songer. Et puisqu'il faut que tu sois sous l'empire de quelques vœux, dis-moi par lequel tu vas t'engager envers moi. Oh, maître, fie-toi à ma raison, à mes bonnes mœurs et à mon dévouement pour toi. Ne me demande pas de serment, car c'est un joug effrayant qu'on s'impose. La peur d'y manquer ôte le plaisir qu'on a à bien penser et à bien agir. Je ne me paie pas de ces défaites-là, moi, reprit le Porpora d'un air moitié sévère, moitié enjoué. Je vois que tu as fait des serments à tout le monde, excepté à moi. Passe pour celui que ta mère avait exigé. Il t'a porté bonheur, ma pauvre enfant. Sans lui, tu serais peut-être tombée dans les pièges de cet infâme Anzoletto. Mais puisqu'ensuite tu as pu faire, sans amour et par pure bonté d'âme, des promesses si graves à ce Rudolf Stadt qui n'était pour toi qu'un étranger, je trouverais bien méchant que dans un jour comme celui-ci, jour heureux et mémorable où tu es rendu à la liberté et fiancé au dieu de l'art, tu n'eusses pas le plus petit vœu à faire pour ton vieux professeur, pour ton meilleur ami. Oh oui, mon meilleur ami, mon bienfaiteur, mon appui et mon père, s'écria Consuelo en se jetant avec effusion dans les bras du Porpora.
qui était si avare de tendres paroles que deux ou trois fois dans sa vie seulement, il lui avait montré à cœur ouvert son amour paternel. « Je puis bien faire, sans terreur et sans hésitation, le vœu de me dévouer à votre bonheur et à votre gloire, tant que j'aurai un souffle de vie. »«
Mon bonheur, c'est la gloire, Consuelo, tu le sais, » dit le Porpora en la pressant sur son cœur.
« Je n'en conçois pas d'autre. Je ne suis pas de ces vieux bourgeois allemands qui ne rêvent d'autre félicité que d'avoir leur petite fille auprès d'eux pour charger leur pipe ou pétrir leur gâteau. Je n'ai besoin ni de pantoufles ni de tisane, Dieu merci. Et quand je n'aurai plus besoin que de cela, je ne consentirai pas à ce que tu me consacres tes jours comme tu le fais déjà avec trop de zèle maintenant. Non, ce n'est pas là le dévouement que je te demande, tu le sais bien. Celui que j'exige, c'est que tu sois franchement artiste, une grande artiste. Me promets-tu de l'être ? De combattre cette langueur, cette irrésolution, cette sorte de dégoût que tu avais ici dans les commencements, de repousser les fleurettes de ces beaux seigneurs qui recherchent les femmes de théâtre, ceux-ci parce qu'ils se flattent d'en faire de bonnes ménagères et qu'ils les plantent là dès qu'ils voient en elles une vocation contraire, ceux-là parce qu'ils sont ruinés et que le plaisir de retrouver un carrosse et une bonne table aux frais de leur lucrative moitié les font passer par-dessus le déshonneur attaché dans leur caste à ces sortes d'alliances. Voyons, me promets-tu encore de ne point te laisser tourner la tête par quelque petit ténor à voix grasse et à cheveux bouclés, comme ce drôle d'Anzoletto, qui n'aura jamais de mérite que dans ses mollets, et de succès que par son impudence?
Je vous promets, je vous jure tout cela solennellement, répondit Consuelo en riant avec bonhomie des exhortations du Porpora. Toujours un peu piquante en dépit de lui-même, mais auquel elle était parfaitement habituée. « Et je fais plus, » ajouta-t-elle en reprenant son sérieux. « Je jure que vous n'aurez jamais à vous plaindre d'un jour d'ingratitude dans ma vie. »«
Ah, cela, je n'en demande pas tant, » répondit-il d'un ton amer. « C'est plus que l'humaine nature ne comporte. Quand tu seras une cantatrice renommée chez toutes les nations de l'Europe, tu auras des besoins de vanité, des ambitions, des vices de cœur dont aucun grand artiste n'a jamais pu se défendre. Tu voudras du succès à tout prix. Tu ne te résigneras pas à le conquérir patiemment ou à le risquer pour rester fidèle, soit à l'amitié, soit au culte du vrai beau. Tu céderas aux joues de la mode, comme ils font tous. Dans chaque ville, tu chanteras la musique en faveur, sans tenir compte du mauvais goût du public ou de la cour. Enfin, tu feras ton chemin, et tu seras grande malgré cela, puisqu'il n'y a pas moyen de l'être autrement aux yeux du grand nombre. Pourvu que tu n'oublies pas de bien choisir et de bien chanter, quand tu auras à subir le jugement d'un petit comité de vieilles têtes comme moi, et que devant le grand Händel ou le vieux Bach, tu fasses honneur à la méthode du Porpora et à toi-même. C'est tout ce que je demande, tout ce que j'espère. Tu vois que je ne suis pas un père égoïste, comme quelques-uns de tes flatteurs m'accusent sans doute de l'être. Je ne te demande rien qui ne soit pour ton succès et pour ta gloire.
Et moi, je ne me soucie de rien de ce qui est pour mon avantage personnel, répondit Consuelo, attendri et affligé. Je puis me laisser emporter au milieu d'un succès par une ivresse involontaire. Mais je ne puis pas songer de sang-froid à édifier toute une vie de triomphe pour m'y couronner de mes propres mains. Je veux avoir de la gloire pour vous, mon maître. En dépit de votre incrédulité, je veux vous montrer que c'est pour vous seul que Consuelo travaille et voyage. Et pour vous prouver tout de suite que vous l'avez calomnié, puisque vous croyez à ses serments, je vous fais celui de prouver ce que j'avance.
Et sur quoi jures-tu cela ? Dit le Porpora avec un sourire de tendresse où la méfiance perçait encore.
Sur les cheveux blancs, sur la tête sacrée du Porpora, répondit Consuelo en prenant cette tête blanche dans ses deux mains et la baisant au front avec ferveur. Ils furent interrompus par le comte Auditz, qu'un grand éduc vint annoncer. Ce laquais, en demandant pour son maître la permission de présenter ses respects au Porpora et à sa pupille, regarda cette dernière d'un air d'attention, d'incertitude et d'embarras qui surprit Consuelo,
sans qu'elle se souvînt pourtant où elle avait vu cette bonne figure un peu bizarre. Le comte fut admis, et il présenta sa requête dans les termes les plus courtois. Il partait pour sa seigneurie de Roswald, en Moravie, et, voulant rendre ce séjour agréable à la margrave son épouse, il préparait, pour la surprendre à son arrivée, une fête magnifique. En conséquence, il proposait à Consuelo d'aller chanter pendant 3 soirées consécutives à Roswald, et il désirait même que le Porpora voulût bien l'accompagner pour l'aider à diriger les concerts, spectacles et sérénades dont il comptait régaler Madame la Margrave. Le Porpora allégua l'engagement qu'on venait de signer et l'obligation de se trouver à Berlin à jour fixe. Le comte voulut voir l'engagement. Et comme le Porpora avait toujours eu à se louer de ses bons procédés, il lui procura le petit plaisir d'être mis dans la confidence de cette affaire, de commenter l'acte, de faire l'entendu, de donner des conseils. Après quoi, Auditz insista sur sa demande, représentant qu'on avait plus de temps qu'il n'en fallait pour y satisfaire, sans manquer au terme assigné. « Vous pouvez achever vos préparatifs en 3 jours, dit-il, et aller à Berlin par la Moravie. » Ce n'était pas tout à fait le chemin. Mais, au lieu de faire lentement la route par la Bohême, dans un pays mal servi et récemment dévasté par la guerre, le Porpora et son élève se rendraient très promptement et très commodément à Roswald, dans une bonne voiture que le comte mettait à leur disposition, ainsi que les relais, c'est-à-dire qu'ils se chargeaient des embarras et des dépenses. Ils se chargeaient encore de les faire conduire d'eux-mêmes de Roswald à Pardubitz, s'ils voulaient descendre l'Elbe jusqu'à Dresde, ou à Krudim, s'ils voulaient passer par Prague. Les commodités qu'ils leur offraient jusque-là abrégeaient effectivement la durée de leur voyage, et la somme assez ronde qu'ils y ajoutaient donnait les moyens de faire le reste plus agréablement. Porpora accepta, malgré la petite mine que lui faisait Consuelo pour l'en dissuader. Le marché fut conclu et le départ fixé au dernier jour de la semaine. Lorsque, après lui avoir respectueusement baisé la main, Auditz eut laissé Consuelo seul avec son maître, elle reprocha à celui-ci de s'être laissé gagner si facilement. Quoiqu'elle n'eût plus rien à redouter des impertinences du comte, elle lui en gardait un peu de ressentiment et n'allait pas chez lui avec plaisir. Elle ne voulait pas raconter au Porpora l'aventure de Passau, mais elle lui rappela les plaisanteries que lui-même avait faites sur les inventions musicales du comte Auditz. « Ne voyez-vous pas, lui dit-elle, que je vais être condamnée à chanter sa musique, et que vous, vous serez forcé de diriger sérieusement des cantates et peut-être même des opéras de sa façon. Est-ce ainsi que vous me faites tenir mon vœu de rester fidèle au culte du beau ?»«
Baste !» répondit le Porpora en riant. « Je ne ferai pas cela si gravement que tu penses. Je compte au contraire m'en divertir copieusement, sans que le patricien maestro s'en aperçoive le moins du monde. Faire ces choses-là sérieusement et devant un public respectable sera en effet un blasphème et une honte, mais il est permis de s'amuser. » Et l'artiste serait bien malheureux si, en gagnant sa vie, il n'avait pas le droit de rire dans sa barbe de ceux qui la lui font gagner. D'ailleurs, tu verras là ta princesse de Kulmbach, que tu aimes et qui est charmante. Elle rira avec nous, quoiqu'elle ne rie guère de la musique de son beau-père. » Il fallut céder, faire les paquets, les emplettes nécessaires et les adieux. Joseph était au désespoir. Cependant, une bonne fortune, une grande joie d'artiste, venait de lui arriver et faisait un peu compensation, ou tout au moins diversion forcée à la douleur de cette séparation. En jouant sa sérénade sous la fenêtre de l'excellent mime Bernadone, l'arlequin renommé du théâtre de la Porte de Carinthie, il avait frappé d'étonnement et de sympathie cet artiste aimable et intelligent. On l'avait fait monter. On lui avait demandé de qui était ce trio agréable et original. On s'était émerveillé de sa jeunesse et de son talent. Enfin, on lui avait confié, séance tenante, le poème d'un ballet intitulé « Le diable boiteux » dont il commençait à écrire la musique. Il travaillait à cette tempête
qui lui coûta tant de soins et dont le souvenir faisait rire encore le bonhomme Hind à 80 ans. Consuelo chercha à le distraire de sa tristesse en lui parlant toujours de sa tempête, que Bernardone voulait terrible, et que Beppo, n'ayant jamais vu la mer, ne pouvait réussir à se peindre. Consuelo lui décrivait l'Adriatique en fureur et lui chantait la plainte des vagues, non sans rire avec lui de ses effets d'harmonie imitative, aidés de celui d'étoiles bleues qu'on secoue d'une coulisse à l'autre à force de bras. « Écoute, lui dit le Porpora pour le tirer de peine, tu travaillerais 100 ans avec les plus beaux instruments du monde et les plus exactes connaissances des bruits de l'onde et du vent, que tu ne rendrais pas l'harmonie sublime de la nature. Ceci n'est pas le fait de la musique. Elle s'égare puérilement quand elle court après les tours de force et les effets de sonorité. Elle est plus grande que cela. Elle a l'émotion pour domaine. Son but est de l'inspirer, comme sa cause est d'être inspiré par elle. Songe donc aux impressions de l'homme livré à la tourmente. Figure-toi un spectacle affreux, magnifique, terrible, un danger imminent. Place-toi, musicien, c'est-à-dire voix humaine, plainte humaine, âme vivante et vibrante, au milieu de cette détresse, de ce désordre, de cet abandon et de ces épouvantes. Rends tes angoisses, et l'auditoire, intelligent ou non, les partagera. Il s'imaginera voir la mer, entendre les craquements du navire, les cris des matelots, le désespoir des passagers. Que dirais-tu d'un poète qui, pour peindre une bataille, te dirait en vers que le canon faisait « boum boum » et le tambour « blanc blanc » Ce serait pourtant de l'harmonie imitative plus exacte que de grandes images, mais ce ne serait pas de la poésie. La peinture elle-même, cet art de description par excellence, n'est pas un art d'imitation servile. L'artiste retracerait en vain le vert sombre de la mer, le ciel noir de l'orage, la carcasse brisée du navire. S'il n'a le sentiment pour rendre la terreur et la poésie de l'ensemble, son tableau sera sans couleur, fût-il aussi éclatant qu'une enseigne à bière. Ainsi, jeune homme, aime-toi à l'idée d'un grand désastre. C'est ainsi que tu le rendras émouvant pour les autres. Il lui répétait encore paternellement ses exhortations, tandis que la voiture, attelée dans la cour de l'ambassade, recevait les paquets de voyage. Joseph écoutait attentivement ses leçons, les buvant à la source, pour ainsi dire. Mais lorsque Consuelo, emmantelé et en bonnet fourré, vint se jeter à son cou, il pâlit, étouffa un cri, et ne pouvant se résoudre à la voir monter en voiture, il s'enfuit et alla cacher ses sanglots au fond de l'arrière-boutique de Keller. Métastase le prit en amitié, le perfectionna dans l'italien et le dédommagea un peu par de bons conseils et de généreux services de l'absence du Porpora. Mais Joseph fut bien longtemps triste et malheureux avant de s'habituer à celle de Consuelo. Celle-ci, quoique triste aussi, et regrettant un si fidèle et si aimable ami, sentit revenir son courage, son ardeur et la poésie de ses impressions à mesure qu'elle s'enfonça dans les montagnes de la Moravie. Un nouveau soleil se levait sur sa vie. Dégagé de tout lien et de toute domination étrangère à son art, il lui semblait qu'elle s'y devait tout entière. Le Porpora, rendu à l'espérance et à l'enjouement de sa jeunesse, l'exaltait par d'éloquentes déclamations. Et la noble fille, sans cesser d'aimer Albert et Joseph comme deux frères qu'elle devait retrouver dans le sein de Dieu, se sentait légère, comme l'alouette qui monte en chantant dans le ciel au matin d'un beau jour.